Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi, comme librairie. Défaire, démonter, détricoter, détruire. Il y a dans le titre du livre de Rose Lamy une lutte profonde. Celle de nommer ce qui est consciemment omis, la responsabilité des hommes dans les violences faites aux femmes. Défaire le discours sexiste dans les médias, c'est s'attaquer à un outil de propagande masculiniste, c'est mettre les points sur les i, c'est se préparer pour la bagarre. On remonte ses manches ? Let's go ! Bonsoir Rose.
Bonsoir.
Bienvenue à la librairie. Je suis vraiment ravie de terminer cette année avec toi, même si... mais non. Oui, non. Ça pourrait être entendu bizarrement, mais non, pas du tout. Même si, il faut quand même avouer que ton livre vient remuer quand même pas mal de choses difficiles. Mm-hmm. Mais bon, avec un titre comme « Préparez-vous pour la bagarre, défaire le discours sexiste dans les médias ».
Il est assez autoritaire, ouais.
Il est, voilà, et on se dit, bon, on va quand même mettre les points sur les i, le nez dedans et toute autre expression qui pourrait dire que, on va devoir se confronter, en fait, à la réalité des médias. Je... dit voilà qu'il a été difficile à lire, etc. Et en même temps, tout comme le nom de ton compte Instagram, donc préparez-vous pour la bagarre, c'est vraiment ça en fait. C'est on remonte ses manches, on comprend en fait dans quel monde médiatique on vit, et puis on y va et on n'hésite plus à y aller. Donc merci pour ça.
Je sais pas, mais ouais.
De
rien. Alors.
C'est quand même un livre qui est très important et qui était très attendu pour quand même lancer un petit peu tout le travail en fait que tu as réalisé. On va recontextualiser un petit peu. Préparez-vous pour la bagarre. Dans mon souvenir, c'est un compte qui a été créé en mai 2019.
Oui, mars 2019.
Mars 2019.
Ouais, ça va. C'était le printemps 2019, ouais.
Comment, en fait, est né ce compte ? Tout simplement, pour qu'on comprenne un petit peu la démarche, en fait, amené le livre.
C'est un mélange de plein de choses de ma vie. C'était un peu l'émulation des comptes Instagram à l'époque. Moi, je suivais Lexi, Décolonisons-nous. Il y avait plein de comptes qui venaient de se lancer sur des sujets, et dont plein aussi sur le féminisme. Donc moi déjà je commençais un peu à traîner sur Instagram et à me nourrir de toute cette scène et de tous ces contenus qui m'ont beaucoup appris. Et en parallèle, je travaillais à la SNCF depuis quelques temps et je faisais de la communication de crise sur les réseaux sociaux où j'apprenais en formation et même tous les jours à chaque fois que je devais écrire quelque chose parce que j'annonçais soit des travaux pendant un an et demi, des trucs pas fun ou parfois des accidents aussi. Donc j'apprenais à faire de la communication de crise, donc à peser chaque mot pour qu'il soit pas anxiogène, pour qu'il amène pas une part de responsabilité à l'entreprise. Il y avait plein d'écueils à éviter. Et donc j'ai beaucoup appris sur le langage et sur les mots à cette période aussi. Et quand j'ai réfléchi à me dire, enfin quand je me suis dit tiens, je ferais bien une page parce qu'en plus j'avais envie de me défouler sur les réseaux sociaux parce que du coup on faisait toujours des réunions pendant 3 heures pour poster le moindre truc et j'avais envie un peu d'être libre de poster ce que je voulais. Quand je me suis demandé de quoi je pourrais parler, j'ai eu ces souvenirs des vieilles affaires dont je parle quant à Strauss-Kahn et de toutes les initiatives féministes sur le langage qui avaient été lancées en 2016, je crois, le blog Les mots qui tuent. J'ai pensé à toutes les interpellations sur Twitter à chaque fois qu'il y a une sortie un peu antiféministe. Un féminicide qui est maltraité ou qu'on appelle un crime passionnel dans la rubrique des faits divers. Et je me suis dit, j'ai le sentiment que si on met tout au même endroit et que j'applique ce que j'ai appris sur les mots, on va peut-être comprendre que tout ce qu'on a repéré, c'est pas des exceptions à la norme, mais peut-être bien une norme sexiste à mettre à jour. C'est l'intuition que j'avais. Voilà. Et le truc drôle, c'est qu'au départ, comme c'était des vieilles affaires que je mettais sur la page, j'ai vraiment envoyé un texto à une copine un jour en disant « Bon, un jour, j'aurais plus rien à dire. » Et on en rigole souvent. Donc voilà, pas du tout, en fait. C'est même totalement l'inverse, parce qu'avec une grande communauté comme ça, j'ai une veille qui est... Enfin, il y a une veille sur tout le territoire et tous les jours, et je peux juste même pas tout lire, quoi, tout ce que je reçois, donc... Voilà, pour le contexte de création.
Ce qu'on le remarque dans ton livre, c'est que différents abonnés t'envoient en fait des captures d'écran, je suppose, des articles ou des choses qu'ils ont pu lire dans la presse.
Oui, tu as un formulaire Google sur lequel on peut m'envoyer des choses, et puis je lis aussi les DM et les suggestions. Et ça a été assez collaboratif parce que moi je peux pas lire évidemment notamment toute la presse locale, ça vient vraiment des gens dans leur ville qui tombent dessus par hasard ou du journal de leurs parents ou des choses comme ça. Et c'est collaboratif aussi parce que on a appris ensemble, parce que au départ c'était donc des vieilles affaires. Et c'est au fur et à mesure de ce qu'on m'envoyait, en me disant, c'est pas un peu bizarre aussi la manière dont dans cette interview on parle de la tenue de Rachida Dati, moins de ses idées. Et je me disais, ah ouais, c'est vrai. Et on en discutait aussi en commentaire. Donc on a appris ensemble à sortir des vieilles affaires vraiment caricaturales pour aller sur le quotidien et tout ce qui s'y passait aussi et qu'on n'avait pas forcément repéré. Enfin, que moi j'avais pas vu au début non plus.
Mais c'est ça que c'est la construction de ton livre, c'est vraiment partir des affaires, ouais, pour en sortir à chaque fois, en fait, des explications qui amènent elles-mêmes à un problème systémique. C'est-à-dire d'aller vers le concret des, ouais, histoires comme elles sont racontées, à se dire, mais en fait, tout ça fait un sens global et on est face à un réel problème systémique. Mmh. Tu commences en effet avec Bertrand Cantat et c'est vrai que ça fait partie des gros souvenirs, enfin on a tous et toutes ce souvenir de comment en fait ça a été traité à ce moment-là, mais parfois pas dans les nuances. Et c'est vrai que tu prends le temps aussi d'expliquer comment toi, tu t'es construite autour de ces discours-là, mmh, et de dire, bah oui, alors je ne sais plus si c'est exactement sur cette affaire-là, c'est peut-être sur une autre, parce que tu parles de nombreuses affaires, mais tu replaces aussi comment toi, dans une première lecture, mmh, tu as pu lire l'histoire,
ouais,
et puis ensuite, avec du recul et le temps qui passe et tout, enfin, j'imagine le bagage théorique que tu accumules, tu te rends compte que bah, c'est plus comme ça que tu réagirais. Mmh. Enfin, là, ton compte, de ce fait, il va bientôt avoir 3 ans. Comment tu dirais que ton engagement, ton regard, ta lecture a évolué en si peu de temps? Et parce que 3 ans, c'est pas si long, en fait.
Ouais. Non, mais c'est exactement le mouvement que j'ai fait. Et c'est le mouvement du livre aussi. Et je pense que c'est le mouvement de beaucoup. Ça part de l'émotion, du ressenti, du pressentiment presque qu'il y a quelque chose qui va pas. Après, on repère ce qui va pas et on le qualifie et on le commente ou on s'indigne et on pense que c'est une exception à la règle. Et puis après, mis bout à bout, il y a tellement de faits qu'on se dit, tiens, ça fait peut-être système. Et moi, c'est comme ça que j'ai construit mon féminisme aussi. Et je pense aussi que MeToo, c'est ce qui s'est passé. C'est arrivé en France. On n'était peut-être pas assez prêts pour accueillir ça. Et on nous a présenté ça comme plusieurs affaires qui étaient des exceptions à la norme. Pendant la cérémonie des Césars, ils ont essayé de nous dire « Bon, c'est bon, ça fait 3 ans maintenant, vous allez nous laisser aller au cinéma et regarder des films de Polanski. » Mais après ça, il y a eu une nouvelle attaque. Et pour moi, c'est là que ça a commencé. On a commencé à se dire « Bah voilà, c'est au théâtre, c'est Me Too Gay, c'est l'inceste, c'est Me Too Musique. » Enfin, c'est Musique Tout. En plus, j'en ai fait partie, donc Musique Tout. C'est dans le vin, c'est dans la politique, c'est dans les médias. Et j'ai l'impression que là, on est arrivé à se dire, bon, une fois qu'on a dit que c'était partout, qu'est-ce qu'on fait? Et la manière dont les affaires Hulot et PPDA ont été traitées, je trouve que c'est un vrai progrès parce que on s'est attaqué direct à la parole des victimes enfin, évidemment, la première fois qu'elles se sont exprimées, on a balayé leur parole d'un revers de la main, hein, que ce soit PPDA ou Hulot. Mais elles sont revenues à l'attaque avec un média, avec une enquête de presse. Et là, l'opinion a un peu changé en disant « Ah oui, mais en fait, elle mentait pas. » Bon, ça pose la question de combien il faut de femmes et de médias pour discréditer la parole d'un seul homme sans médias. Bon, mais là, j'ai l'impression qu'on est sur le fond, quoi. On est vraiment sur pourquoi on disqualifie la parole des victimes, pourquoi on les laisse venir se défendre à la télé, pourquoi leurs amis les protègent. Donc ouais, c'est le mouvement que moi j'ai fait et que j'ai l'impression... Enfin, qu'on fait collectivement. De l'exception, du malaise non identifié, ah tiens, ça existe, c'est sûrement des exceptions, ah en fait, c'est partout, tout le temps, et voilà, mmh, c'est un peu déprimant. Mmh. Mais je crois qu'on en est là, en fait.
Mais c'est vrai que de reparler de ce mouvement MeToo qui continue d'être nourri au fur et à mesure, c'est de dire que ben voilà, les femmes et toute autre personne qui ont utilisé en fait ce hashtag pour vraiment prendre la parole, en fait se faire entendre sur leur histoires personnelles. À un moment donné, en fait, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que oui, c'est des mouvements qui sont impressionnants, qui sont assez incroyables en fait quand on y pense dans ce collectif-là. Mais la façon dont ces fameux médias en fait s'en sont emparés, il y a aussi eu une certaine évolution. Et j'ai l'impression que oui, là, on a vu dans les dernières affaires, il y avait une autre façon de traiter cette parole, mais que le chemin n'est pas aussi rapide que l'on pourrait imaginer.
Oui.
Dans quelle mesure, en fait, on pourrait, et est-ce que l'on doit, est-ce que, j'aurais envie tout de suite de donner des réponses, mais non, c'est pas. comment, en fait, on pourrait parler de la responsabilité, en fait, des médias dans la façon, dans le traitement en fait, de ces affaires.
Oui, alors, sur les médias, moi, c'est pas tant une critique du fonctionnement des médias, du fait qu'ils appartiennent à des grands groupes ou la parité dans les rédactions ou, enfin, si, je parle quand même de la catégorisation, mais en fait, pour moi, c'est juste un support qui est collectif, qu'on a tous en commun et qui est accessible gratuitement, populaire. Comme tu disais, on l'a tous en commun, l'affaire Quanta, et du coup, c'est une des meilleures manières de mettre à jour le discours sexiste en allant sur un terrain que tout le monde a en expérience commune. Donc moi, c'est vraiment sur le discours qui est véhiculé par les médias. J'ai pas de réponse sur la cause. Je sais pas le niveau de conscience des gens qui le perpétuent, pour l'antiféminisme, évidemment, si, c'est complètement le discours réactionnaire, donc il est bien conscient et bien construit, et là, y a aucun doute. Mais sur tout le reste, je saurais pas dire le niveau de conscience, à peu près comme tout le monde véhicule du sexisme, et tu le disais, moi je le dis dans le livre que je l'ai perpétué, pour l'affaire Quanta, ma première réaction, ça a été de me dire, ah dommage, ma sœur m'a donné ses places de concert pour le Zénith d'Orléans où je venais d'aller voir Noir Désir, elle pourra pas aller les revoir plus tard. J'ai pensé qu'à ça, j'ai pensé à moi et ma consommation de l'œuvre de l'artiste impliqué, mais j'ai pas du tout pensé à la femme, donc c'est un biais que moi j'avais et que peut-être des gens ont encore, mais est-ce que ça en fait des monstres? Et voilà, c'est toute la question de la responsabilité des médias. Moi, je crois que plutôt que c'est un révélateur de la société dans son ensemble, en fait. C'est paradoxal, mais c'est ce qui fabrique l'opinion, et c'est aussi le miroir de l'opinion. Donc, c'est plus un révélateur de ce qui se passe à peu près dans tous les secteurs, et je pense dans la vie privée, et dans toutes les familles. Et donc, c'est important de le mettre en avant, de le questionner. Mais la solution à ça, d'un point de vue pratique du journalisme, ça, je saurais pas le dire, quoi. Enfin, des formations, peut-être. Et puis, surtout, il fallait le mettre... mettre tout à plat, en fait, et dire... moi, en tant que consommatrice, en tant que lectrice, en tant que féministe, ça, voilà ce que vous faites et les conséquences que ça a. Après, à eux de prendre la mesure ou pas du problème. J'ai l'impression qu'ils le font, parce que j'ai quand même un bon... J'ai l'impression qu'ils ont envie de se remettre en question quand même, par rapport au fait qu'ils me reçoivent beaucoup et qu'il y a des discussions, même avec la presse quotidienne régionale, que j'ai quand même pas épargnée sur la partie faits divers et chroniques judiciaires. Et voilà, il y a une vraie discussion, en tout cas, moi, c'est ce que je voulais. Voilà, et autre chose aussi, j'ai l'impression qu'on a perdu du temps médiatiquement après MeToo, parce qu'on a passé 3 ans à dire « mais non, la présomption d'innocence, on va la respecter, mais non, pas tous les hommes, mais attention à la diffamation, la délation ». Et alors, on a eu des tonnes de boucliers réactionnaires au discours féministe, et on a passé plus de temps à le déconstruire qu'à s'attaquer au nœud du problème qu'on est en train d'atteindre maintenant, j'espère. On a bien compris que tout ça était absurde, j'espère.
Oui, parce que là, en fait, ce qu'on comprend bien, c'est qu'on est sur un domaine du langage, de la transmission de l'information, du fait de comment on est informé de ce qui se passe dans le pays, si on reste sur la France. Mais le résultat, en fait, de cette mauvaise utilisation du langage, et c'est hyper dur, mais l'invisibilisation et le mauvais traitement, en fait, des informations autour des violences sexistes et sexuelles. Et ce qui fait que ça a une implication quand même qui est...
Oui, une responsabilité des médias quand même, hein, parce que ils ont une responsabilité au moment de catégoriser les informations. Alors déjà, il faut qu'ils décident que ce soit une information qui intéresse qui soit d'intérêt général. Ça, c'était pas du tout le cas au moment de l'affaire Strauss-Kahn, par exemple. où vraiment il y a eu une bataille médias états-uniens et médias français, où les États-Unis disaient mais c'est pas possible que vous gardiez des informations comme ça, c'est d'un prédateur sexuel, vous n'avez pas enquêté, vous le saviez. Et la France répondait mais non, on s'occupe pas de ce que les gens font dans leur plumard. Et le Canard enchaîné a dit l'information s'arrête à la porte de la chambre à coucher. Donc ça c'est un vrai phénomène français d'omerta où on se dit le privé, on parle pas de la sphère privée. Quand bien même derrière la porte de la chambre à coucher, il y a un viol, un inceste ou quoi que ce soit, les médias français avant c'était non non, ça nous regarde pas, c'est la pudeur un peu de la bourgeoisie, on lave son linge sale en famille, enfin c'était des vrais mécanismes comme ça. Donc ça évolue un peu puisque les médias commencent à faire des enquêtes de presse. Et là où ils ont une responsabilité aussi, c'est de catégoriser les violences sexistes et sexuelles quand ils en parlent dans la rubrique des faits divers, ce qui et dans la chronique judiciaire, ce qui est un peu la même chose. Et automatiquement, quand on décide de les mettre en périphérie, on les dit, enfin, déjà, ça veut dire qu'on les met pas au centre de l'information. Enfin, on les met pas dans les informations politiques ou importantes. Et parce que c'est dans les faits divers, il y a tout un usage qui vient du 19e siècle, qui se greffe dessus, où on va essayer de faire un bon mot, on va essayer de faire de l'humour. On va être dans la minimisation parce que faut pas que ce soit trop déprimant non plus. Donc, on va pas appeler, un chat, j'ai l'impression de dire ça tous les jours, mais j'aime bien cette expression. On va rire de la mort et de la violence envers des femmes, on va pas réussir à nommer d'où vient la menace, on va tourner ça un peu comme si c'était une tragédie grecque, comme si ça tombait du ciel. Un exemple concret récemment, c'était sur les campagnes de prévention contre les prédateurs qui droguent des femmes au GHB, un titre de fait divers qui était des campagnes pour prévenir des dangers de la nuit. Je trouve ça, c'est poétique, hein, c'est sûr. Mais la nuit, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire contre la nuit ? Enfin, si on se pose 5 secondes, la nuit, elle va revenir demain. C'est pas quelque chose qu'on peut appréhender, quoi. Donc voilà, tout ce mauvais traitement, ça évite de nommer la cause du problème, de parler de la souffrance des femmes comme on devrait, et du coup de générer de l'empathie pour elles. Et ça minimise les violences, parce que alors là, ça, c'est le phénomène qui, je crois, m'énerve le plus, c'est qu'on va mal nommer les violences. Donc, j'ai parlé de 3 choses. Le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et les viols. C'est des mots qui sont définis par la loi. Je suis allée à la racine de la loi. Et ça, c'est rapporté dans les médias, alors que le boulot des journalistes, c'est quand même de rapporter un fait objectif, hein. Ça, c'est rapporté en dérapage, maladresse, geste inapproprié, geste déplacé, caresse, ébat, qu'on parle parfois de pédocriminalité, hein. Main baladeuse, et il y a toute une incapacité comme ça à dire le mal et à dire la violence qui fait que ben ouais, c'est pas très grave. Enfin, des mains baladeuses, c'est rigolo même. Enfin, c'est la main de la famille Adams, je l'ai déjà dit, mais qui se promène dans l'espace public et qui va faire des guilis aux gens, et c'est complètement incroyable de traiter ces faits comme ça. Et c'est vrai que là, il y a une responsabilité aussi, mais c'est aussi un peu inconscient, donc c'est compliqué. Je crois pas que les gens qui rédigent le fait divers se disent « Ah, comment aujourd'hui je vais minimiser les violences, disqualifier les victimes et déresponsabiliser les agresseurs ?» Je pense pas qu'ils le fassent sciemment, mais en tout cas, ils le font. Et la conséquence, c'est que on se rend pas compte que c'est un système, en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec les féminicides. On parlait de crimes passionnels, de drames conjugales, on pensait que c'était des anecdotes individuelles qui s'empilaient, que c'était la faute à pas de chance, que c'était l'amour, le destin, c'était romantique. Et puis quand on a commencé à imposer de parler du mot féminicide, et quand je dis « on », c'est les initiatives féministes, les gens ont commencé à se dire « ah ouais, mais en fait c'est tous les 3 jours, mais en fait c'est politique, mais en fait... » Et de fil en aiguille, ça devient la grande cause du quinquennat, même si bon, c'est pas... je sais pas si ça servait à grand-chose, mais en tout cas c'est devenu quand même politique, c'est devenu un débat public au moins.
Oui, après, il y a quand même parce que on a l'habitude de voir dans les médias des choses très violentes, d'entendre des choses violentes. Enfin, on est des générations où on a été biberonnés aux journaux télévisés qui nous montraient les explosions, les famines, les guerres avec les corps. Enfin, je veux dire, la violence, on l'a vue, on ouais. sait nous la montrer. Et là, il y a quand même, on est de l'ordre de l'impossibilité de dire cette violence-là, ces violences-là.
Ouais.
C'est quand même, enfin, même si c'est pas conscient, c'est un inconscient construit. C'est-à-dire oui. que c'est vraiment tout ce principe du systémique, en fait.
C'est un inconscient construit, et à mon avis, on le fait pas pour protéger les femmes. À mon avis, c'est construit exactement pour que le statu quo demeure. et qu'on, parce que ce que je dis aussi en intro, si on rapportait les faits, parce que il y a pas que les féminicides. Moi, j'ai des alertes Google sur femmes. Et tous les jours, c'est une cinquantaine d'actes de violence, hein, d'étranglement, de, elle s'est jetée sur, enfin, il l'a jetée par la, sur la route en voiture, des choses qui sont, les féminicides, c'est la partie immergée de l'iceberg, mais il y a un monde de violence quotidienne. Et si on les rapportait dans les médias comme ça devrait être fait, enfin, juste de manière factuelle, vraiment, si on disait toutes les 40 minutes des dépêches ou des alertes dans les téléphones qui disaient une nouvelle femme, si une femme tuée, des coups de poing, machin, mais ce serait insoutenable. Il y aurait une réaction collective, je pense.
Mais c'est ce que tu dis dans le livre. Il y a ce,
ouais, ce serait
un premier chapitre belle, quoi. Comme ça que tu présentes. Tu dis, ce serait une révolution.
Ouais. Je crois que ce serait insupportable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait pas. C'est parce que ce serait insupportable de le faire et de savoir qu'en fait, on peut pas nommer le problème. En fait, il y a ça aussi. Il y a tout un paradoxe avec ça. C'est qu'on a On doit minimiser, et en plus, nommer le problème, ça crée un bug dans la matrice. Le problème, c'est la violence masculine. Moi, je la nomme. J'ai aucun problème avec ça. Toutes les statistiques vont dans ce sens-là. Et quand on essaye de la nommer, et je donne un exemple, c'était Mélusine sur Twitter qui avait posé la question, qui donne des tonnes de statistiques sur la condamnation en termes de violence sexiste et sexuelle. Et je crois que c'est 99% des condamnés qui sont des hommes. Ça veut pas dire que c'est 99% des hommes. Je vous arrête tout de suite. Et elle pose la question, comment fait-on pour que les hommes arrêtent de violer? Et c'est la première fois, moi j'ai fait, waouh, qu'est-ce que c'est rafraîchissant. Tiens, il y a le mot du groupe social qui pose problème en majorité, conjugué au mot viol. Et ben ça a pas loupé, que sa page elle a failli sauter, que Instagram et Twitter étaient perdus, ils ont pas su communiquer sur pourquoi il y avait eu ce bug dans la matrice. Moi j'ai posé la question sur Instagram. J'ai passé 10 jours à avoir mon compte entre la vie et la mort. Ils ont supprimé le truc, après ils le remettaient, ils supprimaient le post, après ils ont supprimé 10 autres, ils supprimaient des stories, ça avait plus aucun sens. Je les voyais en fait dans la salle de modération, en se disant, putain, mais on fait quoi? Elle a beaucoup de monde, ouais, mais justement. Enfin, et donc c'était matériellement un bug dans la matrice, parce que la subversion de la question de Mélusine, c'était ça, c'est qu'elle a dit, ben là on y va, on a un peu de courage et on dit, ben le problème c'est ça. Et il y a d'autres exemples, hein. Donc, beaucoup de choses sont faites dans le discours médiatique pour ne jamais en arriver à conjuguer le bon sujet avec le bon verbe à la voix active.
Oui, c'est ça. Tu as un chapitre comme ça de ton livre qui est un vrai exercice de langage, hein, pour le coup, de langue, où en fait tu reprends, et c'est vraiment très intéressant dans ton livre, tu reprends en fait les unes des journalistes et tu les réécris
à la voix active.
À la voix active, en disant mais arrêtons de tourner autour du pot et de faire penser en effet que c'était un crime romantique. Enfin, en fait, à chaque fois, à chaque endroit de langage, tu vas dire non, on dit pas ça comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est ça. Et c'est vrai que si tous les journalistes respectaient en fait cette question de la gentilité, en fait tout, enfin en effet, mais comme tu le disais un petit peu plus tôt,
ah, ce serait dur, ouais, ce serait insupportable.
Bah, c'est l'homme, et on pourrait plus passer
homme,
à côté
un homme,
en fait.
Au lieu d'une femme, une femme, et ça changerait beaucoup de choses. Parce qu'avoir une femme a subi ça, une femme a vécu ça, nous qu'est-ce qu'on retient? Qu'on doit craindre l'espace public, alors qu'en plus c'est pas forcément là que ça se passe, et d'une menace qu'on connaît pas, donc on intériorise d'avoir peur tout le temps et de voilà, et de, on intériorise la peur en fait, alors que et sans savoir d'où elle vient, donc on pense que c'est ben la nuit, que c'est des concepts. Il y a un exemple que j'adore, c'est, enfin j'adore, on se comprend, c'est une affaire de violence conjugale appelée à la barre. Je trouve ça incroyable. Moi, je vois le petit dossier arriver. J'ai encore été méchant. Alors que pourquoi on dit pas, ben un homme est appelé à la barre pour des violences intrafamiliales. Et il y a plein de procédés comme ça. Ouais. Et donc la partie 3, elle est très longue et très linguistique. Et c'est un peu le cœur du livre. Et j'ai beaucoup travaillé dessus et ça a été hyper dur, mais j'en suis assez fière aussi.
Ah, mais c'est vraiment hyper essentiel, en fait.
Ouais.
Parce que quand on se retrouve encore à... même si les consciences évoluent, que la façon de... Enfin, c'est plus vraiment une surprise que de dire que les médias sont un discours sexiste. Mais de là à vraiment expliquer, en fait, aux personnes qui... Bon, sont pas dans les féminismes tous les jours, ou ont une petite distance avec ça, genre, oh, c'est pas très grave, en fait, en vrai, c'est que, voilà.
C'est que des mots.
C'est que des mots, mais en fait, non, ce ne sont pas que des mots, c'est que les...
Ouais, c'est révélateur.
Les mots montrent vraiment la société dans laquelle on vit, et de ne pas savoir les utiliser justement, c'est bien, en fait, qui a un problème très profond, qui est dans notre construction depuis toujours, et qu'il va falloir énormément d'énergie, en fait, pour ces structures médiatiques, d'oser, en fait, changer ces récits-là, même si ça commence et qu'on peut être...
Ça commence sur le traitement de l'information des violences sexistes et sexuelles comme un sujet d'intérêt général. Mmh. Les enquêtes de presse, il y en a de plus en plus. On commence à croire la parole des victimes, à arrêter de croire sur parole les accusés quand ils arrivent en disant « mais non, jamais de la vie ». Mais sur le langage, c'est quand même très nouveau. Hein. Les journalistes que je peux rencontrer sont « ah, waouh, on pensait pas que c'était de cette ampleur-là et... ». Et donc, voilà, ça va être un peu... Ça secoue, mais voilà, là, c'est une nouvelle étape, je pense, dans la prise de conscience.
Ton livre, il est aussi très référencé. Ça a dû être aussi un travail assez incroyable que d'aller rechercher tous ces chiffres. Et en même temps, tu n'as pas lancé des sondages. Tu es allé chercher quand même ce qui était disponible, même si j'imagine que ça a demandé énormément de travail. Mais c'est-à-dire qu'un journaliste peut avoir les mêmes chiffres que toi. En fait, peut aller chercher.
Oui.
Pour autant, c'est quand même, enfin, pas des informations que l'on croise facilement en dehors des livres spécialisés. Ça fait partie évidemment de l'invisibilisation. Enfin, ça fait partie du jeu. J'ai envie de dire que de faire comme si, en fait, en effet, c'était du fait divers, c'était du quotidien. Mais allez, on va pas commencer à parler de statistiques, on va pas, etc. Est-ce que, comme on l'entend, en fait, tu as pu rencontrer des journalistes depuis, tu les as questionnés sur cet endroit, en fait, de mais ce que je vous dis là, en fait, vous auriez pu vous aussi, en fait, vous en emparer.
Ouais. Non, j'ai pas. J'ai pas trop.
Je sais pas, ça peut être.
Non, je l'ai pas trop amené sous cet angle-là. Ils sont un peu séchés quand même hein, de la démarche. Que j'ai fait un peu toute seule, sans avoir fait des études de journalisme, ni d'ailleurs d'université. Nous sommes un peu... ouais, quand même. Il y a une thèse, quand même, je tiens à dire, qui est en cours, là, sur spécifiquement la catégorisation faits divers et pages centrales des journaux, ce qu'on n'a pas encore en France. Donc, c'est quand même... il y en a en Belgique et en Suisse, et moi, je me suis appuyée dessus. Donc, il y a un peu il y a des choses universitaires qui ont été écrites sur le sujet. Il y a quelques articles féministes qui ont été faits, mais le problème en France, enfin, on va voir si c'est un problème parce que faut nuancer, mais qu'il n'y a pas d'organes de régulation de la presse écrite, par exemple. Il y a le CSA pour la télé et la radio. Donc là, on sait que quand il y a un peu de, quand il y a des dérapages, il y a une intervention possible, ou en tout cas, on peut s'en référer à quelqu'un en disant « bon, bah là, c'est pas possible, ça dépasse les bornes, et puis il peut y avoir des sanctions ». On parle pas de censure, hein, on parle de sanctions économiques ou de rappel à l'ordre. Et pour la presse écrite, y a rien. Donc c'est un peu un impensé, cette critique des médias. C'est quelque chose qui n'existe pas, parce que j'ai fait une petite enquête pour savoir comment on pourrait faire sans les réseaux sociaux. Et il n'y a pas de référence, enfin, il n'y a pas de... Il y a bien un conseil de déontologie, mais qui n'est pas du tout reconnu par la profession, qui n'a aucun effet et que personne n'écoute. C'est plutôt, du coup, une régulation entre pairs, PAIRS, des médias. Donc, c'est un peu des discussions entre eux, quoi, d'édito en édito. Et c'est intéressant parce que hier, du coup, j'ai fait une émission à France Info. Elle était un peu... mais si, ça a changé. Et j'ai pas pensé tout de suite à lui demander, mais... est-ce qu'il y a eu un jour un débrief, quoi, de « tiens, l'affaire Quanta, on a quand même bien merdé, quoi ». Parce que là, fallait voir ce qui se passait, hein. C'était recevoir tous les copains qui venaient dire « mais non, c'est impossible, c'est mon ami, on a parlé de troussage de domestique, il y a Jacques Lang qui a dit « à pas mort d'homme », enfin, c'était l'enfer, on disait qu'elle était moche, qu'aucun homme aurait voulu, enfin, un homme comme lui n'aurait jamais voulu d'elle. Enfin, c'était un discours affreux, quoi. Et hier, ça m'a fait, j'y ai pensé après coup, mais elle me disait, mais si, ça va quand même mieux. Mais en fait, ça va mieux, grâce à qui? Mais pas grâce à votre introspection. Enfin, en tout cas, si vous avez fait introspection, on n'en a pas vu la couleur, en fait. Peut-être que ça va mieux, mais dites-le. Communiquez, dites, c'est ce qu'elle me disait hier. Bah, si, nous, on traite beaucoup des violences sexistes et sexuelles. Bah, c'est peut-être vrai, mais il y a quand même tout un passif à mettre à plat, quand même. Enfin, moi, ça me dérange quand même de pas avoir d'espace pour discuter de ça, en fait. Et c'est c'est un peu pour ça qu'on est obligé d'utiliser le tribunal médiatique.
Oui.
Voilà. je dis ça avec ironie, hein, parce que c'est ce que nous renvoient les réactionnaires, mais à la fois où on discute de ces questions-là, puisqu'il n'y a pas de, d'organisme pour le faire. Quoi.
Oui, c'est ça. Et ce qui est aussi questionné, mais qui rend très vite très crispé et très agressif tout le corps médiatique, c'est lorsque l'on parle de liberté d'expression.
Ouais.
Et c'est vrai que... Enfin, si je peux avoir ton avis là-dessus. En fait, là, on commence avec la période électorale, etc., qui arrive. On commence à avoir quand même des discours, et notamment du côté de Zemmour, des choses complètement, enfin, illisibles. Enfin, on ne devrait pas, voilà. Enfin, c'est des choses qui sont très violentes à lire. Donc, on se re-questionne encore une fois sur cette question de la liberté d'expression. Quel est ton avis, en fait, sur ces... Si tu me permets de te poser la question, ouais. Sur... cet endroit en fait de la langue extrémiste en fait, enfin tout comme on peut le lire quand même très souvent avec enfin l'appel à ce que les féminismes cessent, que c'est le danger pour la démocratie, que et tu en parles aussi sur la fin de ton livre, ouais. De comment par contre là, enfin quand il s'agit de détruire les féminismes, de les arrêter, il y a une voix quand même dans certains médias, on va, je vais pas généraliser, qui les écoute.
Not all media, ouais, s'il te plaît. Non, ben sur la liberté d'expression, c'est un grand argument qu'on va nous opposer quand on va critiquer le discours médiatique. Donc évidemment, je me suis renseignée sur le sujet. Et pour ce qui est de la parole réactionnaire, la parole de droite, Zemmour, d'extrême droite du coup aussi. Enfin, il y aurait presque un tome 2 à faire sur la responsabilité des médias à inviter, mais à pas contredire, à laisser l'espace. Parce que ils sont pas forcément pour les idées qui sont partagées, mais il y a une complaisance, une connivence à les inviter et à surtout inviter personne en face qui pourrait contredire, qui pourrait fact-checker. Alors ça commence un petit peu, là, BFM avait fait un fact-checking, ou c'est LCI, je sais plus, pour le débat Zemmour-Mélenchon, mais ça, c'est encore un sujet à part entière, quoi. Comment le sensationnalisme, la quête du buzz va influer sur le fait d'inviter ce genre de personnes, comment du coup le curseur de la neutralité se déplace, comment on continue à nous parler de neutralité journalistique, parce que moi j'ai déjà entendu, on m'a dit bah oui mais on prend tous les avis, c'est ça le pluralisme. Bah excusez-moi mais il y a pas de pluralisme dans le traitement des violences sexistes et sexuelles, c'est 100% du male gaze, du regard masculin et du discours sexiste. Il y a peut-être 3 interventions par an des féminismes sur ces sujets, le 8 mars et le 25 novembre, il n'y a pas du tout de pluralité d'opinion sur ces questions-là, en fait, si vraiment on met les choses à plat. Et ça, la question de la neutralité, c'est aussi Alice Coffin qui en parle beaucoup, sur ce mythe de la neutralité journalistique. Mais la neutralité journalistique, du coup, c'est ce qu'elle explique. Je vais illustrer parce que c'est un peu compliqué, même pour moi. Elle disait qu'un jour, elle voulait faire un reportage sur la communauté LGBT, ou je sais plus exactement sur quel sujet. Elle est elle-même lesbienne, elle le dit ouvertement. Et on lui a répondu qu'elle serait pas objective de traiter de ce sujet-là. Et du coup, c'est un collègue à elle, blanc, hétéro, cisgenre, qui a fait le reportage. Donc voilà, la définition de la neutralité, c'est ça. Et si on a des engagements progressistes ou qui sont à rebours du système, on devient les non-neutres. Et voilà, ça interroge aussi sur leur responsabilité à maintenir cette illusion de neutralité. Mais ça, vraiment, ce sera un autre, encore un autre livre. Hein. Enfin, il y a beaucoup de sujets encore... à traiter.
Et ça me fait penser à, je crois que c'était un tweet de Fatima Wasak qui avait interpellé en fait les médias, les journalistes sur la question du choix en fait des informations qu'ils mettaient à la une ou dont ils parlaient, et de dire mais à partir de quel moment en fait on peut pas aussi choisir de changer en fait le regard de la presse et d'aller vers des initiatives positives, de revaloriser des populations qui sont systématiquement descendues par les journaux, etc. Et j'avais trouvé cet endroit-là de questionnement, parce que c'est une militante, elle est en lutte, Fatima Wasak, elle est vraiment avec des populations qui sont systématiquement en fait accusées. Et j'avais trouvé ce moment très... Enfin, à la limite de l'épiphanie, en fait, de se dire,
ouais.
Mais c'est un choix que de toujours, d'abord, être dans des choses très difficiles, même si évidemment là je m'écarte un peu de la visibilité des violences faites aux femmes et aux enfants, mais de dire en fait à quel moment en fait on a décidé que les médias devaient être les porte-parole en fait de toutes les mauvaises choses sur Terre et de d'avoir un avis toujours très négatif en fait sur tout ce qui se passait.
C'est Alice Coffin aussi qui dit que l'information en soi que l'actualité en soi n'existe pas, mais qu'elle est la somme de ce que les journalistes décident de traiter ou non dans la rubrique information. Ça pourrait être très simple un autre monde où on parle de toute autre chose, on parle des initiatives positives, où on parle de populations marginalisées ou minoritaires. Bah là, ça pose la question du monde du capitalisme dans lequel on vit aussi. Là, il y a une dimension de toucher le plus grand nombre. Il y a qui détient les médias en ce moment. C'est quand même catastrophique. Quels sont leurs projets derrière? Ça s'est passé aux États-Unis aussi avec des grands groupes médiatiques qui ont réussi à mener des réactionnaires au pouvoir. Il y a toutes ces dimensions-là à prendre en compte. Il y a une intention aussi là de faire tout ça. Il y a une intention dans le choix de l'info qu'on décide de partager, des gens qu'on décide d'avoir sur le plateau, de l'appât du gain, et puis des groupes de médias. Ouais, ces questions-là.
Mais c'est des questions de. Enfin, ce mot responsabilité en fait revient depuis plusieurs fois, mais parce que en fait, à un moment donné, si on veut vraiment avancer. Et révolutionner cette société, enfin changer son axe, en fait, il va falloir que, j'ai l'impression, vraiment chaque partie prenne la responsabilité de ses actes, en fait. Que à un moment donné,
les... Ou on bourrine, comme on a fait pour le féminicide, inlassablement, sous tous les commentaires, enfin, sous toutes les publications, jusqu'à ce qu'on les tanne tellement qu'ils changent, quoi. Moi, j'ai plus espoir dans ce fonctionnement-là de... Ce que je dis dans la dernière partie aussi, qui parle plutôt d'antiféminisme et donc qui parle aussi du féminisme actuel, que c'est une lame de fond qui vient du bas. Elle est pas institutionnelle, elle est multiple, elle a pas de, il y a pas de personnes qui l'incarnent en fait. Donc ça leur fait vraiment peur et c'est ça qui fait changer énormément c'est ce qui nous fait gagner la bataille culturelle dans l'opinion publique aussi. Là, j'ai vu encore une statistique, mais c'est du CSA où je crois que 76% des gens se déclarent féministes en France. C'est plus 14% depuis MeToo. Bon, on pourrait discuter de la définition, hein, mais c'est quand même devenu quelque chose de populaire, de... On a déplacé, on a ramené un peu un curseur vers le centre quand même de l'opinion et je crois plus à ça, moi. C'est un peu, bah ouais, bourriné, quoi. j'ai pas d'autres mots, mais c'est ce qu'on a fait avec les féminicides et ça a marché. Alors moi, l'exemple que je prends aussi, que j'en parle tout le temps, mais j'étais chez ma mère à Bourges et on regarde Faustine Bollard l'après-midi. C'était des émissions psycho, public féminin, voilà, j'adore. Et là, le nom de l'émission, c'est Féminicide 2. On ne tue pas par amour. Et ça, c'est un slogan de manif que j'ai vu en pancarte peut-être 3-4 ans avant. Et je dis, là, ça avance. Moi, je crois plutôt à ce genre de contamination, cette circulation, comme dirait Nathalie, d'agents, agents contre agents qui, après, sont tellement nombreux qu'ils vont, qui forcent à modifier peut-être le système. Voilà, je suis peut-être optimiste, bizarrement, mais moi, c'est la solution que je vois, en fait.
Oui, qui ressemble...
Je pense pas qu'on va déloger Bolloré, qu'on va avoir des émissions dans CNews, enfin, ce serait quand même un peu naïf, ça, de le croire. Mais par contre, on peut réussir à changer à influer l'opinion pour que peut-être un jour ce soit tellement massif que les directeurs de chaîne se disent tiens, on pourrait faire une émission comme ça, ça marcherait au moins. Après, bon, ça s'inscrit dans le capitalisme, évidemment. J'ai pas un discours révolutionnaire, mais voilà.
Mais à plusieurs reprises dans ton livre...
Digression 100 000, hein.
Non, mais je suis totalement, j'ai pas de problème. Si je me souviens bien, à plusieurs reprises, tu parles d'éducation populaire, non, dans ton livre.
Ouais.
Et c'est vrai que bah, ça a toujours été un élément en fait, clé pour faire bouger les foules, et c'est de en fait, prendre le temps d'expliquer.
C'est ce qu'on fait, hein, tous les comptes qui bossent gratos pour vulgariser des... Vulgariser, je le dis pas avec mépris. Des contenus de la théorie féministe, c'est ce qu'on fait.
Oui. C'est ça, oui. Et c'est un travail monumental et en même temps, ça a un impact aussi monumentale.
Ouais.
Parce que vos comptes sont enfin énormément suivis, relayés, c'est rien qu'à voir en fait voilà les pour ton livre, il y a tout de suite eu un engouement enfin spontané en fait, il a pas fallu convaincre les gens d'aller acheter et lire ton livre.
Ouais.
Et pour terminer en fait vraiment merci pour tout ton travail, parce que je pense que sur tout on commence à avoir un livre à chaque problème de langage, c'est-à-dire que quand on est bloqué dans une conversation et qu'on n'arrive plus à avoir les arguments qui font mouche, qui permettent en fait de nous protéger et de pas passer 1000 ans à expliquer, ben c'est bien d'avoir un livre pour dire en fait moi je suis pas là pour t'apprendre la vie en fait, par contre il y a un super livre et ben et là tu nous as créé voilà celui qui va nous aider à montrer en fait que ce qu'on lit, ce qu'on voit dans les médias, c'est une construction, et que puisque c'est une construction, ben on peut en fait la construire autrement.
On peut le défaire, j'ai envie de dire.
On peut le défaire même.
J'ai passé du temps à trouver ce mot. Bah oui, bah merci, c'est vraiment l'objectif hein. Et les initiatives de sémantique dans le féminisme, vraiment c'est pas moi qui les ai inventées, elles existaient déjà, mais il y a eu vraiment un sale boulot à faire de tout mettre bout à bout et de dire voilà l'ampleur des dégâts. Donc c'était dur à faire, mais je suis contente que ça ait cet écho et qu'on me dit souvent ça, c'est une boîte à outils, que c'est un voilà qu'il y a tout et qu'on peut piocher dedans quand on voit quelque chose. Voilà, après faut pas s'épuiser en débat inutile, mais le conseiller
mais c'est ça,
très bien.
On fait, voilà, après la personne en face le lit ou pas, mais c'est ouais. Enfin, le chemin de la personne.
Si ça aide, ça remplit complètement sa mission de convaincre le plus possible, quoi, à nos échelles.
C'est merveilleux. Merci beaucoup, Rose.
Merci à vous.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie de Rose Lamy, à l'occasion de la parution de son ouvrage « Préparez-vous pour la bagarre, défaire le discours sexiste dans les médias » aux éditions J.C. Lattès. L'Affranchie Podcast, c'est Soizic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec l'Affranchie Podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.